Eh bien, le bonjour à tous, c'est les Meb qui vous parle pour cette chronique tech consacrée à Linux. Alors Linux, c'est un système d'exploitation, en fait équivalent à Windows ou macOS, sauf que Linux a la particularité d'être gratuit et libre. On verra ses avantages un peu plus tard. Justement, nous allons parler dans cette chronique tech de Linux, mais cette chronique tech est un petit peu spéciale puisqu'elle est à mi-chemin entre un ABC pas dur. Un ABC pas dur, rappelons-le, c'est une chronique tech qui explique un mot de vocabulaire informatique qui n'est pas forcément super compréhensible dès la première écoute. Et ça se situe aussi entre un ABC pas dur donc, et un divers. Un divers qui est donc une chronique tech où en fait on parle un peu de tout et de rien, une sorte de gros dossier. On va commencer par le sommaire. Donc cette chronique tech se séparera en plusieurs parties. La première partie, je vous avais dit tout à l'heure que Linux est un système d'exploitation libre. Alors qu'est-ce que le libre? Si vous ne savez pas, donc ce sera court de rattrapage. Voilà, le libre, c'est quoi? Ensuite, on parlera de deux mots dans la partie suivante. En deux vocabulaires spécifiques aux Linuxiens, distribution et environnement de bureau. Quatrième partie sera consacrée aux avantages de Linux. Pourquoi passer à Linux? En tout cas, pourquoi le tester? Pourquoi est-ce qu'il y a une si forte communauté? Pourquoi est-ce que les gens qui sont passés sous Linux l'aiment? On verra ça aussi. Et la cinquième partie sera beaucoup plus pratique, là, beaucoup moins théorique. Elle sera ainsi consacrée donc à l'installation de Linux, comment faire pour l'installer, comment faire pour tester. Je vous donnerai des liens et puis plein d'autres joyeusetés. Voilà. Donc si on commençait, donc on va commencer par la première partie donc, qui va être consacrée au libre. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Linux est donc un système d'exploitation libre. Alors si ça vous dit rien, rassurez-vous, c'est normal. Donc Linux est donc un logiciel libre, tout comme par exemple, si ça vous dit quelque chose, le logiciel Mozilla Firefox, le très célèbre navigateur web, ou comme le logiciel OpenOffice.org. En fait, tous ceux-là ont une particularité, c'est qu'ils sont libres, et donc libres, ça veut dire qu'ils obéissent à un certain nombre de règles. Alors justement, quelles sont ces règles? Quelles sont les particularités du logiciel libre? On va commencer par la première particularité. La première particularité, c'est que vous pouvez refiler un logiciel libre à ses amis. Donc, en gros, on va prendre un exemple. On va prendre à ma droite Firefox, à ma gauche Microsoft Office. Donc Firefox, le très célèbre navigateur web de la fondation Mozilla, qui est libre, et Microsoft Office, la suite bureautique de Microsoft, qui ne l'est pas. Alors globalement, Firefox, si vous le gravez par exemple sur un CD, vous pouvez très bien le refiler à vos amis en disant « Ah regarde, c'est un super navigateur web, il est mieux qu'Internet Explorer, donc teste-le toute urgence. » On peut aussi l'envoyer par mail. C'est pas interdit. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, c'est pas interdit, c'est même fortement recommandé, puisque ça fait connaître Firefox, et donc la communauté de Firefox augmente. Alors qu'avec Microsoft Office, tu peux juste pas. C'est-à-dire que si t'as ton CD de Microsoft Office, que tu l'as installé sur ton ordinateur, et que tu veux le refiler à tes amis, c'est pas possible. Tu peux le faire, c'est techniquement faisable. C'est comme genre voler une pomme dans un étalage, c'est techniquement faisable. Sauf que bah là, voilà, le truc, c'est que c'est juste interdit par la loi. Alors, en théorie, Firefox, tu pourrais le revendre, c'est-à-dire que tu peux, t'as ton CD, et tu dis, bon, bah très bien, je vais me faire du fric, je veux le vendre sur eBay. Parce que j'ai eu gratuitement, je vais le revendre sur eBay. Tu peux le faire, c'est pas interdit, Mozilla va pas te poursuivre en justice. Non, maintenant, ce qui est con, c'est que les gens, ils vont juste s'apercevoir un peu que c'est gratuit, hein, Firefox, tu peux le trouver rapidement sur firefox.com gratuitement, et de façon tout à fait officielle, et donc forcément, ils vont pas l'acheter. Donc voilà, donc là, c'est un peu con. En revanche, c'est possible techniquement de le vendre. Donc avec Linux, tu peux refiler le CD à tes amis, c'est ce que j'ai fait pour réparer le CD d'un ordinateur d'un copain, et ça avait super bien marché. La deuxième chose, c'est que tu peux étudier un logiciel libre. C'est-à-dire que globalement, t'as Microsoft Office à ma gauche et Firefox à ma droite. Microsoft Office, tu ne peux pas savoir comment c'est qu'ils font pour faire la gestion des polices, par exemple. Ou comment ils font pour insérer une image. C'est pas possible, c'est fermé. C'est-à-dire que leur code source, c'est-à-dire leur recette de cuisine, elle est fermée. C'est-à-dire, enfin, on peut pas savoir comment ils ont fait le truc. Alors qu'avec Firefox, le code source est ouvert, de façon à ce que tu peux savoir comment est-ce qu'ils font pour afficher une page web. Alors ça a plusieurs avantages. D'abord, tu peux t'en resservir si, par exemple, tu veux faire un navigateur web toi. Ou même si ça t'éclate de savoir comment ils font pour afficher une page web. Alors faut juste s'y connaître un peu en programmation, puisque le code source est fait dans tel ou tel langage de programmation, mais à part ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi un deuxième avantage du fait que le code soit ouvert, c'est que potentiellement il y a plus de personnes qui vont avoir le code que chez Firefox ou chez Microsoft Office, puisque chez Firefox ce sera potentiellement la terre entière. Et chez Microsoft Office, ce sera potentiellement juste les personnes qui sont les codeurs d'Office. Donc, ça permet, par exemple, un suivi des bugs, un suivi des erreurs, un suivi des failles de sécurité beaucoup plus rapide que dans Microsoft Office, puisque toute la communauté s'y met. Donc ça, c'est le deuxième principe du logiciel libre, qui, au départ, peut paraître un peu débile, mais qui, finalement, est un énorme avantage pour les développeurs de logiciels libres. Donc, la troisième particularité, c'est que tu peux modifier un logiciel libre. Donc, globalement, ça veut dire quoi ? Globalement, ça veut dire que, étant donné que le code de Firefox est ouvert, globalement, ça veut dire que, potentiellement, tu peux modifier Firefox. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis, je trouve que y a tel ou tel truc qui sont mauvais sur Firefox, je vais les changer. Si tu t'y connais un peu en programmation, tu peux le changer. Tu peux même changer plein de trucs et en faire n'importe quoi ce que tu veux avec. Tu peux même faire un virus avec Firefox. Tu peux redonner ta version modifiée à tes amis, tu peux même la vendre, etc., etc. T'as plus de chances de gagner de l'argent, sur le coup. Mais donc, c'est pour dire que les logiciels libres, tu peux tout faire avec leur code source. Donc, c'est pas contrairement avec Office, où le code est fermé, et donc tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas faire ta version de Microsoft Office et potentiellement la vendre. C'est-à-dire, tu peux faire ta version de Firefox et la vendre, et ils viendront pas réclamer de droits d'auteur, comme quoi c'était leur idée et pas la tienne. Donc voilà, donc ça c'est la troisième particularité du logiciel libre. Alors, maintenant, il faut se pencher sur un truc. Il y a une idée reçue qui est fausse, c'est celle de dire que le logiciel libre, c'est gratuit. Non, le principe du logiciel libre, c'est pas forcément qu'un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. La plupart et la grande majorité des logiciels libres sont gratuits. Maintenant, il y a des fois où tu te trouves avec des trucs payants. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux vendre un logiciel libre. Donc forcément, ça implique que, par exemple, si tu vends Firefox sur eBay, Firefox, c'est un logiciel libre, et pourtant il est payant. Donc, il y a certains cas où, justement, un logiciel libre est payant. Donc voilà. Donc c'était pour combler cette idée reçue, comme quoi chaque logiciel libre est gratuit. Donc, je vais juste donner un exemple rapide. Par exemple, si vous avez un pack de 100 CD Linux, ça peut être payant, parce que il faut prendre en compte le coût de la production, il faut prendre en compte les frais de port, etc. etc. Mais bon, il faut rappeler quand même que la quasi-totalité des logiciels libres sont gratuits. Voilà, donc on en a terminé avec le libre. On va parler un peu plus de Linux, et si vous me permettez, je vais donc utiliser un peu une image pour résumer Linux. Linux, en fait, c'est un peu comme un oignon. Non, ça ne fait pas pleurer. En fait, Linux est comme un oignon parce que ça a plein de couches. Et donc la première couche, c'est le noyau Linux qui s'appelle le kernel. Voilà, donc premier mot de vocabulaire appris. En fait, c'est la base de Linux, c'est-à-dire que chaque ordinateur qui a Linux donc a ce noyau Linux à l'intérieur. Donc voilà, et en fait, il est censé être fait pour que chaque développeur qui veut faire des couches au-dessus le fasse le plus facilement possible. Donc, le kernel est développé par l'équipe de Linus Torvalds, finlandais, donc Linus, Torvalds, Linux, c'est normal, c'est fait exprès. Et en gros, à quoi sert le noyau Linux, donc le kernel ? En gros, pour faire simple, il sert à faire vraiment ce qui est du côté machine, pas du côté utilisateur, du côté de ce qu'on ne voit pas, du côté obscur de la force, globalement, gestion des fichiers, un peu des applications, etc. Mais là, c'est vraiment, vraiment plus genre écran noir avec du texte écrit en blanc. Mais c'est super super important, sans ça vraiment votre ordinateur ne pourrait pas fonctionner, je vous le dis. Donc voilà, donc ça c'était la première couche, donc le kernel. Maintenant au-dessus de cette couche noyau Linux, qu'on ne peut pas changer, là on peut vraiment pas la changer, c'est le noyau Linux, sans ça c'est plus du Linux, sauf on peut le mettre à jour. Il y a une deuxième couche, donc la deuxième couche c'est les distributions. Donc qu'est-ce que les distributions ? Alors au départ donc on a le noyau Linux, et donc au-dessus donc la deuxième couche, les distributions. Alors, qu'est-ce qu'une distribution ? Alors, globalement, Linux a plusieurs identités, c'est-à-dire ça n'a pas une identité, ça en a plusieurs. Donc, c'est un peu comme Windows, quoique. C'est-à-dire que Windows, vous n'avez qu'un Windows, vous n'avez pas plusieurs Windows. À part les éditions, par exemple les éditions Starter, les éditions familiales basiques, les éditions familiales premium, etc. Donc en fait, les distributions, c'est un peu les différences entre les éditions Windows, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de différences. C'est-à-dire, ça ne se contente pas d'améliorer telle ou telle chose en fonction pour l'édition supérieure. Non, en fait, c'est beaucoup plus que ça, et puis en plus, ça coûte le même prix pour chaque distribution, c'est-à-dire 0€. à part quelques exceptions que je vous expliquerai tout à l'heure. En gros, globalement, la distribution est une sorte de sous-Linux. Alors en fait, la définition selon ubuntu-fr.org, c'est... En fait, la distribution, c'est un ensemble de logiciels qui vont bien ensemble. Plus spécialement, chaque distribution a en fait une philosophie. Il y a une distribution pour le grand public, une distribution plus tournée vers les développeurs, etc., etc. Alors, si vous voulez essayer de bien comprendre et de voir vraiment ce qu'est une distribution, je vais vous dire ce qui change entre chaque distribution. Alors globalement, d'une distribution à une autre, qu'est-ce qui peut changer ? Ce qui peut changer, c'est d'abord le support et la communauté autour. Vous aurez probablement plus de gens dans une distribution qui est plus utilisée qu'une autre. Plus de gens, pourquoi ? Pour vous répondre et vous aider à résoudre vos problèmes. Donc d'abord le support et la communauté autour, mais aussi les logiciels préinstallés. En effet, dans chaque distribution, choisis les logiciels qui vont être préinstallés dedans, d'où l'ensemble de logiciels. Alors, il y a aussi d'autres choses plus techniques, comme par exemple, dans la conception du système, comme par exemple les installations de programmes, ou le temps de démarrage par exemple. Donc ça peut changer d'une distribution à l'autre. Et surtout, une des grandes différences, c'est l'environnement de bureau préinstallé. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'environnement de bureau ? Eh bien, je vais vous répondre. Et normalement, vous allez comprendre. Par exemple, quand vous êtes sous Windows, vous remarquerez qu'il y a une barre en bas et un menu démarrer en bas à gauche. C'est l'environnement de bureau de Windows. C'est globalement l'identité visuelle de Windows. Vous avez une barre des tâches en bas à droite, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez ça, et c'est vraiment l'identité visuelle, l'identité ergonomique de Windows. Sous macOS, par exemple, vous avez une barre en haut et un dock avec vos applications en bas. Oui, mais cet environnement n'est pas modifiable. En gros, si vous avez Windows, vous ne pouvez pas faire en sorte, à moins d'un gros bidouillage, de façon à ce que vous ayez à gauche une barre rouge qui scintille où vous mettez vos applications, et à droite une barre verte qui scintille aussi et où vous mettez vos favoris internet, et si vous cliquez trois fois dessus, elle devient jaune et ça met vos documents. Non, c'est pas possible. L'environnement n'est pas modifiable. Comme dans macOS, vous ne pouvez pas faire en sorte, pareil, la barre en haut restera la barre en haut et le dock restera le dock. Chez Linux, l'environnement de bureau est modifiable, contrairement à Windows ou macOS. Ainsi, vous pouvez faire votre petit délire de barre à gauche et à droite. Bon, après, ça ne dépend que vous. Hein, on ne discute pas les goûts. Si vous vous y connaissez, un peu en programmation, bien sûr. Sous Linux, l'environnement de bureau est donc modifiable et il y a trois gestionnaires de bureau qui sont les plus utilisés. Alors, je vais vous les présenter. Il y a GNOME, d'abord. G-N-O-M-E, ça s'écrit comme un GNOME. Alors, elle est caractéristique parce qu'elle a une barre en haut, qui a en haut à gauche un menu application, un menu lancement, et un menu système pour vos préférences. En bas, vous avez une barre qui vous permet d'afficher les fenêtres qui sont vertes et de naviguer d'un espace de travail à l'autre. Le deuxième, l'environnement de bureau que je vais vous présenter est KDE. Alors il est un peu similaire à Windows, c'est celui qui ressemble le plus, puisque comme sous Windows, il a une barre en bas, et il a une sorte de menu démarrer, sauf que celui-là, il s'appelle le menu K. Il a été rénové d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, donc c'est KDE 4. Le troisième gestionnaire de bureau, qui est aussi très utilisé, est XFCE. Alors lui, il a la particularité non pas de faire des EV dans tous les sens, mais plutôt d'être très simple et très léger, et de consommer très très peu de mémoire et de performance de votre ordinateur. Donc globalement, vous avez un environnement de bureau qui est relativement beau, et qui a en plus l'avantage de ne pas bouffer beaucoup de ressources. Donc c'est assez sympa, contrairement à Aero. Bon, je dis rien. Donc voilà, donc c'est GNOME, KDEXFCE. Alors faites votre choix pour savoir l'environnement de bureau, d'autant que sous Linux, avec cette fameuse troisième couche, qui est l'environnement de bureau, vous pouvez le changer à tout moment, vous pouvez même en avoir deux, vous pouvez même en avoir trois de gestionnaires en même temps, et choisir celui que vous voulez au démarrage de Linux. Donc on va résumer un peu. Globalement, si on résumait Linux, il y aurait donc 3 voire 4 couches. Première couche, le kernel, le noyau Linux, qui permet donc de gérer les applications et les fichiers. C'est donc la base de Linux, le socle commun entre tous les ordinateurs utilisant le système d'exploitation. La deuxième couche est la distribution, qui est une sorte d'ensemble de logiciels, une sorte d'édition de Linux, une sorte donc de sous-Linux. La troisième couche, je viens d'en parler, sont les environnements de bureau qui définissent l'identité visuelle de votre ordinateur. Vous avez donc le choix entre GNOME, avec les deux barres, KDE qui ressemble relativement de loin à Windows, et XFCE qui a l'avantage d'être très simple et très léger. Maintenant, parlons un peu des avantages de Linux. Pourquoi passer à Linux ? Pourquoi le tester ? Cette sorte d'inventaire que je vais donner est tirée du site whylinuxisbetter.net, la version française. Si vous voulez le retrouver, j'ai fait une petite tiny URL pour accéder à la page des bonnes raisons de passer à Linux, c'est www.tinyurl.com/pourquoi Linux. Tout attaché. Alors, la première raison est le prix. En effet, la plupart des Linux sont gratuits. En effet, quand vous avez Linux, bah, vous ne payez rien, contrairement à Microsoft qui paye à peu près 300 euros. Autre avantage avec Linux en ce qui concerne la gratuité, c'est que la plupart des logiciels que vous pouvez trouver et que vous pouvez utiliser sur Linux sont gratuits. Donc plus besoin de payer par exemple Microsoft Office ou Photoshop. Il y a des équivalents qui sont gratuits et qui sont aussi de qualité. Alors une des autres raisons avancées par le site, c'est la lenteur de Windows par exemple, si votre système est instable ou si Windows est de plus en plus lent. Alors ils avancent que Linux est beaucoup plus rapide, que Windows est beaucoup plus stable et avec beaucoup moins de virus. Autre point fort, la communauté, étant donné qu'il y a une communauté très active sur Linux, il y a moins de personnes sur Linux que sur Windows, mais les utilisateurs sont plus actifs, régler vos problèmes est beaucoup plus facile avec Linux qu'avec Windows, puisque beaucoup plus d'utilisateurs sont à votre écoute. Autre avantage avec Linux, étant donné que la communauté est active, les bugs, les erreurs et les failles de sécurité sont beaucoup plus rapides à être comblés. Et enfin, l'autre avantage, c'est que Linux est vraiment un laboratoire à idées, c'est-à-dire que les nouvelles technologies et les nouvelles générations, comme par exemple les nouvelles générations de bureaux, les nouvelles générations de technologies, arrivent en premier sur Linux, et c'est une sorte de laboratoire, donc vous pouvez profiter des dernières nouveautés et des avant-premières des technologies qui arriveront demain sur les ordinateurs. Les problèmes avancés par les détracteurs de Linux sont généralement la compatibilité avec les autres logiciels. Alors, il y a peut-être des solutions, comme notamment le programme Wine, appelé communément Windows Emulator, qui vous permet, en fait, d'avoir un programme en .exe, un programme Windows, et que quand vous le lancez sur votre machine Linux, eh bien, automatiquement, votre programme Windows s'affichera comme si c'était sur votre PC. C'est un énorme avantage puisque ça améliore grandement la compatibilité avec les applications Windows. A noter que Wine marche aussi sur Mac. Enfin, l'autre point qui peut vous permettre de passer à Linux et qui est un argument assez déterminant, pour ma part en tout cas, c'est le fait qu'on puisse installer Linux sans désinstaller Windows. En effet, votre ordinateur peut accueillir 2, voire 3, voire 4 systèmes d'exploitation sur son ordinateur. Il suffit juste de faire du partitionnement. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des excellents tutoriels sur le net. Je vais vous donner des liens à la fin de cette émission. Bon voilà, si vous avez été convaincu et que maintenant vous voulez installer Linux, on va passer un peu à la pratique. Toute proportion gardée bien sûr, puisque je vais essayer de vous apprendre à comment installer Linux. Alors la première étape est de choisir sa distribution. Donc des distributions, justement, je vous en avais pas parlé, vous n'avez pas donné de nom de distribution. Maintenant je vais pouvoir vous en donner. Alors comme distribution, qu'est-ce qu'il y a ? On trouve la plus connue et celle qui a la plus grande communauté, Ubuntu, vous en avez très probablement entendu parler, qui est très bien, c'est celle que je vous recommande et c'est justement celle que je vais traiter pendant l'installation. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Alors, Ubuntu gère l'environnement bureau GNOME, mais Kubuntu a de base KDE et Xubuntu a de base XFCE. Alors, il y a d'autres distributions comme Fedora qui est plus tech, enfin plus généraliste que Ubuntu, moins orienté grand public. Il y a aussi Debian qui, elle, est vraiment beaucoup plus geek, beaucoup plus orienté vers les développeurs. Il y a aussi des distributions comme par exemple OpenSUSE qui est plus distribuée pour les professionnels. Alors, il y a une distribution qui est faite par une société française qui s'appelle Mandriva Linux, qui vient de sortir une édition récemment, leur nouvelle édition, Mandriva Spring 2009. Donc la particularité de Mandriva, c'est qu'il y a une édition pro qui vaut 49 euros. Donc quand je disais tout à l'heure que le logiciel libre n'est pas forcément gratuit, et ben je trouve que c'est un bon exemple, puisque vous le voyez que là, en l'occurrence, Linux n'est même pas gratuit. Alors donc il faut choisir votre distribution. Moi, en l'occurrence, je choisis Ubuntu parce que c'est la plus simple à utiliser et la plus accueillante et la plus chaleureuse. Comment se procurer donc un CD d'Ubuntu, puisqu'il faut un CD d'Ubuntu pour pouvoir l'installer. Alors il y a deux manières, ou vous commandez un CD sur internet, sur shipit.ubuntu.com, donc shipit c'est S-H-I-P-I-T, .ubuntu, ubuntu, u-b-u-n-t-u.com, Et donc vous commandez un CD. Alors cette solution, bah, vous aurez un CD, vous êtes sûr qu'il est fait de qualité professionnelle. Maintenant, étant donné que les frais de port ça coûte quelque chose, votre CD il arrivera de façon lente. C'est-à-dire que globalement, moi en l'occurrence, l'expédition de mon CD a pris 5 semaines, mais ça peut aller de 10 à 12 semaines. Donc la deuxième solution pour avoir votre CD instantanément, c'est de graver votre CD. Donc graver votre CD, il faut récupérer une image ISO. Pour le graver sur un CD, en gros, donc il faut un disque vierge, un logiciel adéquat. Donc, après vous installer Ubuntu, c'est de façon très simple, et justement pour rebondir là-dessus, comment trouver des bons tutoriels pour pouvoir installer Linux. Donc, je vous conseille deux sites. Le site du zéro, le très bon site du zéro, www.siteduzero, siteduzero.com, donc il y a un tutoriel Linux très bien fait, et le site... www.ubuntu-fr.org qui est un peu moins accueillant que le site du zéro, mais qui recèle aussi d'une très très bonne documentation et surtout d'un forum pour aller exposer vos problèmes et éventuellement les résoudre. Voilà, sinon vous pouvez toujours poser vos questions sur le forum de Pod Radio, forum.podradio.fr pour essayer de résoudre vos problèmes. Donc voilà, c'était la chronique tech sur Linux, émission présentée et préparée par moi, les Meubs. Vous pouvez toujours vous renseigner sur Pod Radio, podradio.fr, le blog avec toutes les news de iTruc et son équipe. Vous pouvez aller aussi sur le forum, forum.podradio.fr pour le forum. Vous pouvez aussi contacter l'équipe, podradio.fr/contact, contact au pluriel. Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur notre Twitter, twitter.com/podradio_, le trait en dessous du 8. Podradio_fr. Sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Facebook avec le groupe Pod Radio, et vous pouvez toujours nous laisser un message sur le répondeur qui est 09 67 11 00 20. Voilà, je répète, 09 67 11 00 20. En ce qui concerne l'émission, un post sera fait sur le blog, ainsi qu'un sujet dans le forum. Quant à cette émission audio, vous pouvez la retrouver en podcast, en balado-diffusion, sur iTunes. La journée continue sur Pod Radio, tout de suite la musique. Et à chaque heure, une news. Allez, à plus, et comme on dit dans le métier, enjoy.